Ici à l'UDS, c'est le balado qui va te donner toutes les clés pour une arrivée réussie à l'université et au Québec. On parle de tous les sujets lorsqu'on immigre et on te donne les ressources pour répondre à tes questions. Tu écoutes un nouvel épisode d'Ici à l'UDS. Ben bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec Luc, qui est conseiller à U Sherbrooke International. Merci beaucoup d'avoir accepté. Aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de logement, de téléphone aussi, qui sont des choses qui sont très importantes quand on est étudiant international. C'est des choses auxquelles il faut penser. Donc, par rapport au logement, à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à réfléchir et à se dire, OK, là, va falloir que je pense à prendre un logement, que je fasse mes recherches et où est-ce que je peux les faire? Est-ce qu'il y a des ressources particulières?
En fait, faire ces recherches de logement, ça peut commencer très tôt. L'enjeu, c'est vraiment la signature d'un contrat, parce que généralement, on signe un bail, un engagement qu'on vient. Et quand ce n'est pas avec une institution comme l'université, quand c'est des privés, si vous n'avez pas vos papiers légaux puis que vous ne pouvez pas finalement arriver au pays, à ce moment-là, vous risquez de perdre votre dépôt.
Oui.
Alors, c'est pour ça qu'on peut commencer à chercher tôt, mais on attend de signer le bail, que vous ayez la confirmation que vous avez vos documents d'immigration pour pouvoir rentrer sur Sherbrooke ou Longueuil, campus Longueuil.
Oui, avoir une certaine assurance de venir à la bonne date finalement pour avoir un logement et pas perdre l'argent qu'on a mis. Parce qu'il y a souvent une demande de dépôt qui est le montant en général du loyer qu'on va payer.
Du premier mois généralement. Certains privés vont même exiger le premier mois et le dernier mois, curieusement.
OK.
Comme ça, si vous quittez un peu tôt, ben, ils ont l'assurance d'avoir le dernier mois. Parce qu'il faut savoir que quand on loue un logement au Québec, on signe un engagement de payer toute la période pour laquelle on a signé.
Oui.
Comme les sessions d'études, ce n'est pas toujours lié aux périodes de 12 mois de location au Québec, ça peut arriver qu'on soit tenté de quitter le dernier mois en disant bah, « un mois, ce n'est pas grave ». Mais sachez que vous avez pris la responsabilité, ça a un certain
un certain poids, oui, ouais. Exactement. Puis où est-ce qu'on peut chercher? Parce qu'il y a plusieurs possibilités, il y a des résidences à l'université. Sherbrooke, c'est quand même une ville étudiante, fait qu'il y a beaucoup de colocations. Où est-ce qu'on peut chercher pour trouver et pas se faire arnaquer aussi? Parce que parfois, on peut avoir peur un peu de se faire arnaquer, de se dire « oh, c'est trop pour ce qu'on demande », etc. Comment ça fonctionne par rapport à ça?
Bien, en fait, la recherche, c'est sûr, ça se fait facilement à partir d'Internet. On a à l'Université de Sherbrooke, là, l'association, la Fédération des étudiants de l'université, qui a développé un site Internet qui s'appelle Unilogie, qui annonce là, des logements de différentes tailles, etc. Puis je vais vouloir vous parler des tailles un peu plus tard. Donc, la recherche, ça se fait généralement facilement sur Internet à partir de l'étranger. Mm-hmm. C'est la façon la plus efficace. Maintenant, il faut avoir quelques trucs pour s'assurer que le logement existe pour vrai.
Ouais.
Malheureusement, on a eu quelques cas dans les dernières années où est-ce qu'il y avait des logements qui n'existaient pas, que c'était une pure fraude alors qu'on exigeait 2 mois, 3 mois de loyer. Puis ça aboutissait à une adresse fictive où il n'y avait pas d'appartement. Quand on procède avec, on utilise par exemple une agence de location, les agences, c'est du monde très sérieux, puis ils vont même vous faire visiter de façon virtuelle l'appartement, ils vont vous demander d'avoir vos papiers légaux avant la signature d'un bail. Fait que ça peut être une autre façon de louer un logement qui est plus rassurante parce que vous êtes sûr que vous faites affaire avec une compagnie sérieuse et non pas... quand on y va avec les petites annonces sur Facebook ou encore sur Kijiji, qui est un site de petites annonces...
Ouais.
Avec un privé, ça peut être un peu plus inquiétant. Il faut trouver des stratégies pour s'assurer qu'on ne fait pas face à un fraudeur.
Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup quand même. Là, il y a même un petit groupe sur Facebook, etc., des petites annonces de logement, etc. Est-ce qu'on peut quand même y faire confiance, vu que c'est souvent des étudiants qui mettent? C'est comment on peut vérifier pour ne pas se faire arnaquer puis pas arriver justement avec une adresse fictive?
Bien, effectivement, sur Facebook, quand on voit un statut récent, c'est-à-dire une nouvelle page récente d'un étudiant, bien, on peut se méfier. S'il n'y a pas sa page web depuis sa page Facebook depuis quelques années, on peut penser que c'est quelqu'un qui apparaît un nouveau statut puis il disparaît après 6 mois. Alors, mais malheureusement, si vous avez des connaissances à Sherbrooke, écoute, peux-tu aller faire une vérification sur place, est-ce que ça existe? Alors, si on peut utiliser des gens qui sont déjà sur place, ça peut être une façon de valider si l'appartement est effectivement alloué. Évidemment que si on fait affaire avec l'Université de Sherbrooke, puis là, il y a beaucoup des résidences universitaires, mais ce n'est pas nécessairement des résidences de l'Université de Sherbrooke. Puis pour trouver les résidences de l'université, vous allez sur le site de l'Université de Sherbrooke. Là, l'université a plus de souplesse, je dirais. Je veux dire, je vais le dire ainsi. Donc, si vous réservez, il y a des dates précises où est-ce qu'ils ouvrent les réservations. Bien, là, vous pouvez déposer votre, faire votre premier dépôt du premier mois. Et si vous faites la preuve que c'est pas hors de votre contrôle, que vous n'avez pas obtenu vos papiers légaux, bien, à ce moment-là, l'université va vous rembourser le premier mois.
OK.
Donc, quand on fait affaire avec l'université, on peut s'attendre à une plus grande assurance.
Oui, plus de sécurité.
Plus de sécurité. Ouais. Mais tout ce qui n'est pas sur le site de l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire même si ça s'appelle résidence universitaire, que ça s'appelle c'est des privés, à ce moment-là, il faut prendre des précautions.
Évidemment. Puis à l'Université de Sherbrooke, justement, on a deux types de résidences, là, les résidences G puis les résidences E. Puis est-ce que c'est un bon endroit pour commencer comme la vie étudiante quand on ne connaît pas, on arrive dans un nouveau pays? Il y a peut-être plus de repères dans ces résidences-là?
Ça dépend de votre capacité d'adaptation. Effectivement, il y a les E. Les E, ça ressemble à un grand corridor dans lequel, par étage, il y a une trentaine de chambres. Donc, si vous êtes quelqu'un de très sociable, qui souhaite rencontrer des gens, c'est extraordinaire. Il y a toujours une porte ouverte avec qui vous pouvez. Puis, il y a beaucoup d'étudiants internationaux dans les résidences.
Ouais.
Ben, E et G aussi. Alors que G, c'est des blocs, des petits blocs. Donc, vous êtes moins en contact avec moins de personnes. C'est un peu plus tranquille, je dirais, par rapport au corridor de
E, ouais.
Même s'il y a des gens qui font attention à ce que ce soit quand même un espace privé et tranquille.
Mm-hmm.
Mais chacun a son avantage. Ça dépend beaucoup de sa personnalité.
Oui, évidemment. Puis il y a aussi des responsables d'étage qui font qu'il y a quand même une vie en résidence. C'est compliqué de s'enfermer en résidence puis de ne pas vivre. Donc, ça peut être une bonne option. Mais si des gens veulent aussi partir en appartement, il y a différents types d'appartements dont tu nous parlais tout à l'heure, notamment des 4,5, des 3,5. Ça peut être un peu bizarre parce qu'on ne fonctionne pas forcément comme ça dans d'autres pays. Donc, à quoi ça correspond? À quoi on peut s'attendre? Puis même au niveau des prix, tu sais, à quoi ça ressemble? C'est quand même important quand on choisit le logement.
Oui. Et c'est une excellente question parce que quand on est habitué à parler de surface en termes de mètres carrés, on peut être un peu surpris de voir ici 2,5, 3,5, 4,5. Ça fait référence au nombre de pièces. Mais un 4,5, généralement, c'est deux chambres à coucher, deux chambres privées. Mais si vous êtes un groupe d'étudiants puis vous dites ben, il y a quelqu'un qui couchera dans le salon, donc on pourrait occuper à trois étudiants un 4,5, en sachant qu'il y en a un que sa chambre est un peu à air ouverte sur la cuisine, par exemple. Mais si on prend l'exemple du 2,5 en comparaison au 3,5, vous allez avoir là une chambre privée de la même façon. Là, il y aura une combinaison. Un 3,5 pourrait avoir un salon séparé de la salle à manger, par exemple, alors que le 2,5, c'est le salon, la salle à manger, la cuisine, c'est dans la même pièce.
Mm-hmm.
Vous avez aussi le studio, qui est une grande pièce, dans laquelle vous avez le lit,
oui,
la table,
y a tout
la table, le salon, tout est dans la même pièce. Donc, pas de chambre privée. Un peu plus compliqué si on ne s'entend pas avec son coloc. Puis, parfois, ça peut arriver, hein, ne pas s'entendre avec son coloc. C'est
bien sûr,
un peu plus de proximité. Mais il faut faire la différence entre un studio puis une chambre à louer.
Oui.
Les chambres à louer, c'est souvent ici, dans le quartier universitaire, c'est un sous-sol de maison qu'une famille décide de louer trois chambres au sous-sol. Mmh. Et là, vous avez un espace privé, votre chambre, puis tout le reste, c'est partagé avec, un peu comme on peut retrouver en résidence, là, avec des colocs. Là, le salon est partagé.
Les salles de bain, les espaces de cuisine, etc. Ouais, tout est ensemble, en fait.
C'est ça.
Ouais.
Alors, ça, c'est la différence. L'autre élément... puis ce qui m'amène à vous parler aussi des prix, éventuellement.
Mm-hmm.
L'autre élément qui est important à considérer, c'est vraiment les inclusions ou les exclusions.
Oui.
J'ai eu des étudiants qui ont eu la surprise de louer un bel appartement. Ils arrivent, sont très contents, très excités à l'idée d'avoir un bel appartement. Ils ouvrent la porte, constatent qu'il n'y a rien dans l'appartement.
Oui.
Quand on n'est pas avisé que tu peux avoir des appartements complètement vides, on peut être surpris d'être obligé d'aller s'acheter des meubles pour meubler l'appartement.
Puis ça coûte vite cher. C'est quelque chose à prendre en compte aussi.
C'est sûr qu'il y a des commerces avec des meubles seconde main, ou Kijiji, des petites annonces, mais
bien
il reste que c'est un élément à considérer quand on n'a pas pensé à « OK, il faudra meubler l'appartement
».
Ce qui fait qu'on a différentes façons, des différentes appellations. Alors, on va parler de... Bon, généralement, dans les chambres, là, c'est meublé, l'Internet, l'électricité, le chauffage, eau chaude. Là, tous les services y sont, que ce soit à l'université ou au privé.
Mm-hmm.
Quand on parle de meublé, alors généralement, un studio meublé, ça implique que vous allez avoir votre table pour manger et étudier peut-être même. votre lit, puis vos appareils électroménagers comme le frigo, puis la cuisinière.
Oui.
Mais on pourrait aussi trouver des appartements semi-meublés, où là, vous avez juste les électroménagers. Dans les appartements les plus luxueux, vous allez avoir le lave-linge et la sécheuse, mais généralement, c'est semi-meublé, c'est la cuisinière et le réfrigérateur. Puis finalement, le non-meublé.
Ouais.
Puis derrière ça, il y a toute une combinaison, là, l'Internet inclus, l'Internet exclu. Alors, c'est des frais qu'il faut ajouter ou considérer avant de louer.
Ben oui, c'est sûr. Puis c'est surtout à considérer dans le prix, parce qu'évidemment, quand on cherche un logement, on pense à son prix, puis à combien ça va nous coûter pour réussir à vivre à côté, à faire son épicerie, etc. Fait que combien ça coûte en moyenne à Sherbrooke, parce qu'on sait que c'est moins cher que Montréal, mais ça reste quand même un coût pour des étudiants. Fait qu'à quoi on peut s'attendre au niveau prix?
Puis je vous dirais que dans les dernières années, il y a eu une hausse marquée des prix. Il y a des obligations. Les locataires ont des obligations, mais les locataires aussi. Puis, une des obligations des locataires, c'est de relouer le logement au prix qui était avec plus 3 % le coût de la vie. Alors, il y a des logements qui ont été loués sur une longue période où le prix n'a pas été augmenté beaucoup. Mais on assiste aussi là, à des gens qui se font évincer de leur logement. On fait quelques rénovations mineures, puis là, on hausse le logement de 100, 200 $ pour avoir une nouvelle clientèle. Mm-hmm. Ça aussi, alors, ça explique cette hausse-là qui est des écarts importants entre des appartements. J'ai un ami que je connais qui loue un 4,5 pour 650 $
Ce qui est vraiment pas cher.
Puis quand on regarde le marché actuellement, on va trouver un 4,5 pour 1200, 1300. Mm-hmm. Alors, on se questionne sur c'est quoi la différence entre les deux. Bien, lui, ça fait longtemps qu'il reste là. Mm. Puis il va le redonner en sous-location à quelqu'un d'autre par la suite. Puis ça va permettre de maintenir le prix bas. Alors, ça peut expliquer, donc, puis la concurrence aussi, l'offre et la demande, le fameux principe économique. Il y a eu une diminution de disponibilité, donc ça a invité des propriétaires là, à louer plus cher. Puis il y a eu beaucoup de constructions neuves là, de type luxueuse. Là.
Oui.
Puis ça aussi, ça amène à la hausse, même les logements qui sont plutôt ordinaires, mais ça amène à la hausse. Les autres éléments, avant de vous parler des prix qui sont à considérer, c'est le site. Naturellement, si vous êtes au centre-sud de la ville de Sherbrooke, le logement peut être jusqu'à une centaine de dollars de moins cher parce que le quartier est moins favorable, parce qu'il y a des événements culturels durant. Donc, ça peut faire en sorte que ce soit plus bruyant, moins intéressant. Bien des services, ceci dit. Mais ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est qu'est-ce que ça inclut? Puis je vais vous donner des tarifs approximatifs là, des dépenses supplémentaires. Est-ce que c'est un logement qui est au sous-sol ou au deuxième étage? Si vous êtes au sous-sol puis vous voyez les jambes passer, c'est moins intéressant, donc ça implique... Alors, quand le prix est très bas, questionnez-vous sur c'est quoi les facteurs qui font que ce prix-là est inférieur aux autres? C'est parce que c'est dans un logement, c'est dans un quartier moins intéressant, c'est très éloigné de la ville de Sherbrooke, donc pas desservi par des transports en commun. Alors, c'est des éléments vraiment importants à considérer quand on vient pour signer un bail, pour le situer physiquement, où est-ce qu'il se situe par rapport à mes études. Je suis étudiant à l'Université de Sherbrooke, à Sherbrooke. J'ai 40 minutes de bus à faire pour me rendre à mon appartement. Le matin, c'est bien. Si vous devez faire un laboratoire le soir et vous quitter à minuit, c'est possible qu'il n'y ait pas de passage à minuit, que le bus ce soir était à 11 heures. Alors là, vous êtes mal pris, vous avez 2 heures de marche devant vous ou un taxi. Donc, c'est les éléments à considérer. Quand on regarde sur le marché actuellement, puis c'est sûr que ça évolue, là, 2-3 % par année, mais on peut trouver une chambre autour entre 350 et 650 $ Quand je vous dis que le marché, là, ça peut être très, très différent. Un studio, vous allez trouver ça dans les 550 $ à 700 $ alors qu'un 2,5, 625 à 900, puis je m'arrête d'un chiffre, là, le dernier, un 3,5, là, 750 à 1200, puis un petit peu plus là, pour un 4,5.
Ouais, il y a quand même un gap qui est assez énorme, puis ça dépend vraiment de tout ce que tu as mentionné juste avant, finalement. Exactement. Ça dépend aussi de ton locataire, puis de ce qu'il choisit de faire. Mais est-ce qu'on pourrait dire quand même qu'à Sherbrooke, il y a une adaptation aux jeunes, ben, aux étudiants, finalement, et les locataires se disent, on met ça un petit peu moins cher pour des étudiants, ou alors on doit s'attendre à ce qu'il y ait plus dans le côté haut, finalement, des prix?
Je serais heureux de te dire que oui, ils sont très généreux envers les étudiants, mais malheureusement, je pense que c'est une question de marché.
Oui.
Évidemment, que quand c'est des chambres à louer dans le quartier universitaire, on connaît les prix de l'université qui sont autour de 350 $.
Oui.
Alors, il ne faut pas que le gap soit trop, la différence soit trop importante si on veut louer notre chambre. Mais comme il y a des restrictions actuellement, il y en a qui vont louer, qui vont prendre un 5,5, qui vont le diviser en chambres. On voit de plus en plus, là, 2 lits, 3 lits. On ne voyait pas ça avant. Avant, on voyait des 2,5, 3,5, mais là, on parle même de lits actuels.
Oui.
Nouvelle façon.
Mais est-ce qu'on peut être quand même un petit peu sûr, on peut être sûr de trouver un logement? Ou est-ce qu'il y a des risques qu'on arrive puis qu'on se dise « Oh mince, j'ai pas eu le temps de trouver le logement, il n'y a plus de logement disponible » ou est-ce qu'il y a quand même une offre qui est assez grande pour répondre à la demande, comme tu disais tout à l'heure?
Je vous dirais oui, l'offre est assez grande. Cependant, c'est sûr que si vous avez pu avoir vos documents légaux puis louer avant d'arriver, vous allez avoir un meilleur choix au début. Mm-hmm. Que si vous arrivez à Sherbrooke le 15 août et là, les plus belles opportunités sont parties. Puis là, ben, peut-être que vous allez louer un peu plus loin, un peu plus cher. Alors, il y aura la possibilité de trouver, mais ça vous donne l'année suivante pour trouver un autre endroit plus proche de l'université avec un coût plus économique. Mais oui, on n'a personne qui a couché dehors encore.
Bon, tant mieux.
Généralement, on fait un petit comité au début, là, l'automne, pour soutenir les étudiants là, quand ils arrivent et qu'ils n'ont pas trouvé avant de partir.
OK. Puis si jamais, par exemple, parce que souvent, les étudiants internationaux, on nous dit d'arriver comme une quinzaine de jours avant, etc. Mais il y a souvent des bails qui commencent, par exemple, au 1er septembre. Puis si on arrive le 15 août, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 15 premiers jours? Où est-ce qu'on peut loger? Est-ce que l'université a comme des ressources ou est-ce qu'il faut se débrouiller par soi-même, aller à l'hôtel ou dans un Airbnb parce qu'il y en a, quand même à Sherbrooke? Comment ça peut fonctionner?
Oui. Jadis, l'université accommodait les étudiants qui arrivent plus tôt, puis jadis, mais ils le font toujours, là, mais qui ont un bail de signer avec eux. Alors, okay. Pour la personne qui attend sa chambre, ben, ils vont leur louer, il va avoir un dortoir pour quelques semaines. Il faudrait vérifier là, ces services-là évoluent d'une année à l'autre. Mais pas pour des non-résidents,
okay.
Pas pour des gens qui ont signé. Ce qu'on doit faire, c'est sûr, le Airbnb, c'est une bonne option pour arriver 2 semaines d'avance. Mais je vous dirais que beaucoup de baux, curieusement, commencent aussi le 1er juillet.
Ouais.
Ça, c'est l'autre élément. On commence à payer plus tôt avant d'arriver. Mais arriver 2 semaines, 3 semaines, c'est raisonnable pour un étudiant international. Le temps qu'il s'installe, qu'il trouve ses repères.
OK. Mais c'est à prendre en compte, en tout cas. Puis là, pour terminer sur le logement, puis passer au téléphone, est-ce que tu aurais quelques derniers conseils pour trouver un logement qui nous convient, puis s'assurer que ben, tout va bien se passer dans le processus de logement à Sherbrooke?
Ben, c'est sûr que le premier conseil, c'est de vérifier, revérifier l'appartement qui vous est offert.
Mm-hmm.
Vous analysez aussi comme personne. Si je suis une personne qui a une plus grande capacité d'adaptation, on peut aller en résidence, pas de souci, ou aller dans une chambre louée. Si pour vous, c'est plus difficile de s'adapter à d'autres personnes, peut-être là, privilégier un appartement où vous êtes seul ou en colocation avec un ami que vous connaissez déjà. Attention aussi, peut-être le recours d'agence, si vous êtes insécure puis vous ne trouvez pas, peut être une bonne façon. Avec une recherche en Google, vous allez trouver facilement les agences qui ont des logements à louer. Puis surtout, vérifier l'endroit de du logement. Il est à combien de distance? Les services de transport en commun à Sherbrooke, ce n'est pas aussi développé que, mettons, qu'à Montréal. Il n'y a pas de métro ici. Le métro ici, c'est une épicerie. Ouais. Alors, trompez-vous pas. Donc, c'est le transport en bus, en taxi. Donc, assurez-vous d'être pas trop loin du quartier universitaire.
Bon, ben là, on a quand même tous nos trucs et astuces pour trouver un bon logement. Puis, une autre chose à laquelle on doit penser, c'est le téléphone, évidemment, parce que le Canada, c'est quand même connu pour être un des pays où c'est le plus cher d'avoir un abonnement téléphonique. Comment ça fonctionne? Si je viens pour quelques mois, est-ce que je dois garder mon abonnement? Si je viens pour plus longtemps, comment on peut réfléchir puis se dire, est-ce que je vais rentrer dans mon argent? Est-ce que je vais rentrer dans ce dont j'ai besoin aussi, justement, pour se faire appeler des papiers, peut-être, par exemple, un compte en banque? Est-ce qu'on va avoir besoin d'un numéro canadien? C'est des choses à prendre en compte. Fait, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça?
Bien, en fait, si vous venez pour une courte période, vous êtes un étudiant qui rentre dans un programme d'échange pour 4 mois, peut-être pas lieu de changer son forfait que vous avez en Europe, même si je sais qu'en Europe, c'est techniquement, on doit être résident pour utiliser le forfait européen.
Mm-hmm.
Mais pour 4 mois, moi, je me contenterais de garder mon propre téléphone cellulaire. Cependant, sachez qu'il y a des inconvénients. Si jamais vous souhaitez le faire pour une plus longue période, Puis je pense que vous êtes bien placé pour en parler.
Vous. Oui.
Mais un des inconvénients, c'est qu'il n'y a personne qui va communiquer avec vous avec un numéro européen. Personne ne va vous rappeler parce que ça implique des... parce qu'on ne sait pas. 033 avant, qu'est-ce qu'on fait avant le numéro, on ne sait pas.
Ouais.
Personne ne va vous texter. Donc, vous allez être un peu plus anonyme dans la foule. Vous ne pourrez pas changer sur votre dossier à l'université pour un numéro québécois. Alors, ça, c'est un des inconvénients. Tous les téléphones 1-800, là, des téléphones sans frais, vous allez les payer.
Mm-hmm.
Vous allez payer vos contacts aussi, il me semble, là, avec votre téléphone que vous faites à l'intérieur du pays. Je sais qu'il y a une petite application qui a des coûts, là, beaucoup mm-hmm. de fonds, là, qui permet de transformer son numéro européen en numéro québécois, mais ce n'est pas super fiable,
ouais.
ce qu'on m'en a dit. Puis en plus, ça implique un certain frais. Puis effectivement, si on y va sur les forfaits, bien... au Québec, là, puis vous l'avez dit un peu plus tôt, là, un forfait beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus coûteux. On va trouver là, dans les forfaits entre 30 et 70 $
ouais.
Et souvent, l'appareil n'est pas inclus. Parce qu'il faut savoir aussi que le forfait vous amène à acheter, puis sur 2 ans, il faut que le téléphone soit payé. Donc, si vous achetez un iPhone à 1 500 $, ben, ça se pourrait que votre forfait soit beaucoup plus élevé pour rembourser en 2 ans le iPhone.
Ouais.
Alors ça, il faut considérer ça. Le mieux, c'est d'arriver avec votre propre téléphone, changer la carte SIM.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si en Europe, c'est comme ça, mais au Québec, souvent, quand on a pris un forfait avec Bell, par exemple, le téléphone est barré. On ne peut pas simplement remplacer la carte SIM. Il faut débarrer le okay. téléphone. Donc, assurez-vous, votre téléphone peut accueillir une nouvelle carte SIM avec un numéro de téléphone local.
Ouais.
Puis... là, ben, pour magasiner, il y a beaucoup de compagnies qui sont des sous-compagnies de grandes majeures, là, comme Bell ou Vidéotron. Puis il y a des compagnies arabes qui coûtent moins cher. Tu sais, si on considère, il y a Fizz, il y a Lucky, il y a Kudu, il y a Public Mobile, où là, on peut avoir des forfaits là, avec moins de gig. Puis, parce que ici, vous allez trouver de l'Internet partout, dans ouais. le café. Vous allez trouver Internet dans le parc, vous allez trouver de l'Internet sur le campus universitaire à vos résidences. Donc, vous n'avez pas besoin d'un grand forfait de données, mais simplement des lieux où vous mettre en Wi-Fi puis faire vos transactions. Il y a une autre option aussi, si vous ne voulez pas avoir un forfait mensuel, 30 $, 35 $ par mois, etc. Ce qu'on appelle ici le téléphone à carte. Donc, vous pouvez mettre de la... une carte de 100 $ Généralement, on achète une carte de 100 $ qui est valide pour une année, 12 mm-hmm. mois. Puis, vous déduisez à chaque appel ou chaque texto un petit montant est prélevé sur votre carte de 100 $ Donc, vous n'avez pas un abonnement pour l'année. Ça peut être une bonne solution pour quelqu'un en échange.
Oui.
Puis, vous avez un numéro québécois, vous avez une carte à forfait qui utilise juste pour certaines occasions, par exemple, vos appels entrants.
Puis, est-ce que c'est compliqué, comme parce que parfois, ben, en Europe, même dans des pays d'Afrique, ça peut être compliqué d'ouvrir, d'avoir un abonnement, un forfait, etc. Ça demande beaucoup de papier. Est-ce que c'est le cas au Canada ou c'est quand même, ben, au Québec surtout, ou est-ce que c'est beaucoup plus facile en un clic parce que je sais que pour Fizz, par exemple, en un clic, on peut avoir une carte SIM, puis il y a juste besoin, je pense, d'une adresse. Est-ce que c'est comme ça pour tout ou ça dépend vraiment
Je ne suis pas un expert en téléphone cellulaire.
Ouais.
Mais je sais que c'est relativement simple. Ce n'est pas très exigeant. Là. Généralement, on veut une adresse précise. Certains vont exiger un numéro d'assurance sociale, mm-hmm. ce qui est un conseil à éviter de faire. Parce que le numéro d'assurance sociale, c'est comme votre empreinte digitale que vous donnez à une compagnie de téléphone. Alors, évitez de remettre ce numéro-là. Mais aussi avec une carte de crédit qui va comme garantir... Le forfait, le téléphone, s'il y a lieu, quoi que ce soit.
Mais c'est beaucoup plus simple, puis on peut ça s'en préoccuper comme à la dernière minute, entre oui. guillemets, en étant sur le sol canadien, c'est plus facile que de... C'est pas comme le logement où il faut s'y prendre quelques mois à l'avance.
Oui. Effectivement, vous arrivez de l'aéroport, c'est possible de l'acheter directement à l'aéroport, mais moi, je vous conseille, rentrez dans votre ville, si c'est mm-hmm. Montréal ou si c'est Sherbrooke, puis magasinez les forfaits, voir les plus économiques.
Ouais.
Puis à ce prix-là, ben, après ça, ben, c'est une opération qui est relativement rapide.
Ben oui, puisqu'il correspond le plus à nos besoins, comme on le disait, si c'est 4 mois, à quel point c'est utile ou pas. Puis est-ce que tu aurais un dernier gros conseil, tant pour le téléphone, pour le logement ou pour les futurs étudiants et étudiantes internationales qui vont venir à l'université de Sherbrooke par rapport à ça? Peut-être déjà de ne pas trop stresser, puis qu'il y a l'université qui est là en backup si jamais, mais...
Ben, moi, mon conseil, c'est plus au niveau des communications.
Ouais.
Je pense que... en cette année, maintenant, avec toutes les applications WhatsApp, Messenger, quoi que ce soit, moi, je vous inviterais à utiliser toujours les applications pour communiquer avec vos amis, votre famille dans votre pays. Mm-hmm. Je pense que c'est la façon, parce qu'ici, même si vous avez un forfait québécois, les frais de téléphone grimpent très rapidement.
Oui.
Et vous pouvez rapidement dépasser votre forfait puis avoir une facture inattendue. Ça, j'ai vu ça très souvent chez mes étudiants. Une facture de 200 $ alors que son forfait lui coûte 40 parce qu'il a dépassé les minutes à l'international.
Oui.
Alors, s'il vous plaît, branchez-vous sur le Wi-Fi, WhatsApp, Messenger, entendez-vous. C'est vraiment la façon de communiquer avec vos amis, vos proches dans votre pays.
Puis pour le logement, est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ça aussi quand on cherche un logement? Ben, tu l'as dit tout à l'heure, là, de faire vraiment attention, mais je pense qu'on peut quand même s'appuyer même sur Sherbrooke International qui est là pour répondre à nos questions. Dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un qui va nous répondre. Puis il y a des webinaires aussi, je pense, où vous parlez de ça.
Oui, il y a les webinaires, naturellement, qu'on offre aux nos étudiants, mais il y a aussi, on jumelle nos étudiants avec un étudiant. Local. Un étudiant qui, peut-être un étudiant international aussi, qui a fait la transition de son pays à Sherbrooke. Mm-hmm. Alors là, ben, communiquez avec votre guide pour dire ben, là, qu'est-ce qui se passe avec le téléphone. Puis souvent, les étudiants ont beaucoup d'expérience sur différents juste l'intégration aussi à l'université, etc.
Ouais. Ben, merci beaucoup en tout cas pour tous tes conseils. Je pense qu'on est paré pour avoir un nouveau téléphone québécois puis un logement en toute sécurité. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Tu viens d'écouter un nouvel épisode d'Ici à l'UDS. Retrouve tous les liens et éléments dont on a discuté en description. On se retrouve dans un prochain épisode pour aborder un autre thème lié à l'arrivée à l'université.